maintenant un bon bois de casse.
Maintenant un bon bois de casse.
Et maintenant un bon bois de casse.
Et bonjour à toutes et tous, c'est Cyril Demac qui nous accueille à sa table. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Alors, nous sommes samedi, on est tous très fatigués, on est bien d'accord, mais j'apprends des bonnes nouvelles finalement avec une des sorties dont on a déjà beaucoup parlé, qui buzz pas mal sans savoir vraiment ce que c'est Mirmes. Mirmes est déjà sold out en allemand.
Oui, oui, tout à fait. On est que samedi midi finalement, donc et je crois qu'il est sold out depuis ce matin, donc très bonne nouvelle. Ça veut dire que le jeu est bien accueilli.
Et en plus, il y a une production allemande qui est présente sur place, mais en plus une présentation francophone qui est aussi en bonne situation.
Oui, oui, tout se passe bien pour Mirmes. Et je crois que les boîtes américaines sur le stand de Rio partent très très bien aussi. Le jeu est sur la hotness de BGG. Il est bien noté au Geek Buzz. Voilà quoi.
Plutôt un bon Essen.
Oui, un bon Essen. On n'a pas souvent des mauvais Essen de toute manière, mais celui-là semble être très très bon quand même.
Alors justement, Mirmes, qu'est-ce que c'est puisqu'on parle de fourmis ?
Oui, tout à fait. C'est un jeu où tu dois développer ta colonie de fourmis. En fait, il y a deux plateaux. Il y a le plateau où il y a ta fourmilière, dans lequel tu vas faire tes naissances, des ouvrières, des... C'est un jeu de gestion, hein, déjà je le précise, mais vraiment très thématique. Tout ce qu'on va faire, c'est très logique. C'est pas une simulation, naturellement, c'est un petit peu complexe de faire une simulation de la vie, mais tous les points de règle correspondent à ce que font vraiment les fourmis. Donc, on les fait naître dans sa fourmilière, on va creuser des nouvelles galeries pour étendre sa fourmilière, et il y a un plateau central qui est le jardin, dans lequel on va se battre. Et quand je dis on va se battre, c'est pas vraiment en détruisant les fourmis des autres, mais c'est en envahissant l'espace des autres, en plaçant ces phéromones, qui sont des traces d'odeur, qui vont permettre de récolter la nourriture en vue de l'hiver qui est un peu rude. On pourrait parler d'agricola un peu peut-être, mais le but effectivement c'est d'envahir suffisamment d'espace pour poser des phéromones de plus en plus grosses, récolter de plus en plus, tenir l'hiver et battre les autres joueurs.
Donc ça veut dire qu'il y a un développement en interne vraiment dans son plateau individuel, et puis on essaye d'avoir suffisamment de ressources pour tenir l'année, hein, c'est ça?
Oui, on pourrait si on devait le comparer à quelque chose, ce serait un peu à Antiquity, où il y a à peu près la même chose, où on développe sa ville et où il y a la campagne. Là, on a sa colonie de fourmis et le jardin dans lequel on va se battre pour la nourriture, pour la pierre, pour la terre, qui vont ensuite servir à construire des choses.
C'est un jeu de combien de joueurs? Quelle durée?
2-4 joueurs, environ 1h30 à 4 joueurs, plutôt 45 minutes à 2 joueurs.
C'est le premier jeu d'un jeune auteur?
Oui, tout à fait, oui. Johan Levet, que j'ai rencontré complètement par hasard. J'étais au ski. À Valmeigné, bon, c'est pas totalement du hasard, donc, puisque c'est le rendez-vous ski des joueurs. Mais bon, c'était la première fois que j'y allais. Et il n'y avait pas de neige, donc
il faut jouer.
Ouais, voilà. Donc il n'y avait pas de neige, donc voilà. À l'époque, je faisais la promo d'Olympos, donc je passais de chambre en chambre, on jouait à Olympos, c'était très sympa. Et donc il y a Johan un jour qui a joué à Olympos et qui me fait: oh, tiens, si ça te dérange pas, je voudrais bien avoir ton avis sur un jeu qu'on a fait.
On a fait.
Que j'ai fait, oui, pardon. Je suis un peu...
Moi et mes fourmis.
Oui, voilà. Il a plusieurs personnalités. Il a beaucoup bossé avec sa femme, quand même. Et je lui dis, écoute, pourquoi pas, ça me changera de faire jouer le jeu. J'ai bien envie de jouer moi aussi. Donc, je suis venu jouer avec lui. Et donc, on a fait la partie. Et à la fin de la partie, il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses alors? Il m'a dit, je ne sais pas m'en faire éditer, c'est vraiment juste pour avoir ton avis. Qu'est-ce que t'en penses alors? Je lui ai dit, écoute, j'en pense que je le prends. Voilà.
Ça a dû être joli dans sa tête de dire ah.
Oui, il a été très content. Enfin, il s'y attendait pas, mais en même temps, si tu veux, c'était tellement évident que quand on a joué le jeu, on a commencé la partie, je me suis dit tiens, c'est intéressant. Et puis plus la partie avançait, plus j'étais pris dans le truc. Et à la fin, je me suis dit ce jeu est super. Donc
par cause de mécanique ou de thème?
Les deux en fait, parce que ce qui m'a vraiment séduit dans le jeu, c'est que c'est un jeu vraiment pour joueurs, c'est-à-dire tu dois. C'est même pour joueurs...
Averti.
Pourquoi? Parce que déjà, ton premier ennemi, c'est toi-même. Si tu récoltes un peu mal, tu vas vraiment lutter pour la survie. Et donc, la conséquence immédiate, c'est que c'est très thématique. C'est-à-dire que tu dois gérer bien ta colonie de fourmis pour la faire bien survivre, pas qu'elle se fasse écraser par les autres. Et surtout, toutes les règles sont tellement logiques. Le jeu en lui-même, les règles ne sont pas très dures à expliquer. Le jeu est très facile, mais parce que toutes les règles sont évidentes d'un point de vue thématique. Et donc, ce qui m'a séduit, c'est un jeu pour nous, c'est-à-dire pour les gens qui aiment Hystérie Games vont pas être surpris par le jeu, ils vont pas dire tiens c'est un peu léger cette année, mais en même temps avec un super thème. Et je trouve que dans une époque où il y a beaucoup de jeux gamers qui sortent avec des thèmes un peu légers, franchement j'ai adoré.
Et en plus, si on veut tirer vraiment dans une autre extrême, ça peut même être ludo-éducatif.
Ouais, peut-être.
Je rigole. Non, mais si le thème est suffisamment bien respecté, on peut en apprendre sur les fourmis, c'est ça que je veux dire.
Bah, notamment les phéromones, je pense, oui, effectivement, parce que les fourmis fonctionnent vraiment en colonie et y a des ouvrières qui sortent et qui mettent des traces odorantes qui servent de traces pour les autres pour ensuite récolter. Donc ça marche vraiment comme une fourmilière et notamment les phéromones, je pense pas que ce soit un truc connu de tous. On en apprend. C'est sûr qu'à la fin d'une partie, finalement, sans s'en rendre compte, on a appris des trucs sur les fourmis, quoi.
Arrêtez de marcher dessus. Il y a un package prévu avec Bernard Werber.
Il y a eu des discussions. Moi-même, j'ai connu Bernard Werber à une époque. On ne l'a pas fait par flemme, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire d'intelligent, en fait. C'est surtout ça. On a pensé à lui pour nous écrire un petit mot, une petite préface. Peut-être, on ne l'a pas fait, on verra peut-être dans le futur, pourquoi pas. Le jeu peut très bien se défendre lui-même, on n'a pas besoin d'accoler un nom célèbre dessus pour que ça marche, je pense, j'espère.
Oui, ok, on lui fait de bonnes choses de toute façon. La deuxième sortie, c'est Serenissima, qui est en fait une revisite d'un jeu de Dominique Erhardt.
Tout à fait, oui. Alors, c'est le Serenissima qui était connu sous le nom de Méditerranée en francophonie, mais qui s'est toujours appelé Serenissima dans les autres pays, qui était le nom qu'avait donné l'auteur. Et c'est pour ça qu'en le ressortant, on l'a appelé Serenissima. En même temps, ça nous arrangeait bien parce que c'est quand même plus trop le même jeu. Enfin, c'est toujours un jeu qui a cet aspect étrange d'être au milieu de jeux de gestion commerciale et de guerre, donc entre les écoles américaines et allemandes, on va dire. Mais s'il y a tous les éléments, et d'ailleurs il y a pas mal de joueurs de Serenissima, l'ancien, qui y ont joué et qui nous ont dit qu'ils s'y retrouvaient par rapport à l'ancien Serenissima, les mécanismes ont suffisamment changé pour que finalement ce soit un jeu différent. C'est un remix en fait.
C'est vraiment une revisite ou...
Oui, parce que en fait, si tu veux, Serenissima, moi ça a toujours été un de mes jeux. C'est un jeu, quand j'y ai joué, j'ai trouvé ça génial et finalement, avec le temps, je me suis dit mais ça avait vraiment 10 ans d'avance sur la production ludique de l'époque. C'est des mécanismes très simples. À l'époque, je ne connaissais pas vraiment les jeux allemands et je me suis dit, tiens, c'est marrant avec des choses très simples. Un mécanisme comme une galère va se déplacer d'un nombre de cases égal au nombre de marins qu'elle contient. C'est tout bête, mais tu dis, c'est le genre de mécanique que tu dis, tiens, c'est le genre d'idée auquel j'aurais aimé penser. Là, il y a toujours ça, naturellement. Par contre, la durée était d'époque, tu vois, quand c'est sorti dans les années 80, c'était 80-90, ça se chevauche un peu. C'était plutôt une durée de 4 heures pour une partie. Donc nous, on a ramené ça à une durée de 2 heures maximum, ce qui est plus en phase avec notre époque. Et comment ça, en fait, quand je dis nous, c'est surtout Dominique qui a eu cette nouvelle idée de faire sauter complètement le système de phase, qui est pareil de lui-même un peu archaïque. Avant, il y avait une enchère pour le premier joueur. Ensuite, il y avait une phase d'achat, une phase de déplacement, une phase de vente et une phase de combat. Et tout ça, ça saute pour être remplacé par une roue qui n'est pas comme les roues des jeux à l'antique impériale, mais simplement une roue avec les numéros des galères. Et chaque galère a son numéro, on l'appelle chacun son tour. Et là, quand le joueur est appelé, il décide de ce qu'il fait. Soit il dit je ne bouge pas cette galère et je fais des achats dans mon empire, soit il dit je bouge cette galère, c'est-à-dire je charge des choses dessus, je la déplace et je combats ou je vends. Et ça fluidifie énormément le jeu et en plus ça rajoute une donnée stratégique qui est bon, quelle galère j'ai envie d'acheter. La 1 parce que je vais jouer très vite dans le tour, la 15 parce que je vais voir ce que font les autres avant de bouger, ou alors si j'ai moyen d'acheter les galères 7, 8 et 9, ça veut dire que je vais jouer 3 fois d'affilée, je vais pouvoir faire des combos intéressantes.
Et le pitch de Méditerranée, en fait, c'est on a la mer au milieu et on fait du commerce.
Alors,
je résume très fort.
Et du commerce brutal, parfois. C'est-à-dire que, pareil, ça, avant, il y avait une notion de point de victoire, ça a sauté. Le but, c'est très simple, c'est d'être le plus riche à la fin. Après, être le plus riche, il y a plusieurs méthodes. La méthode simple consiste à charger du bois, aller le vendre plus loin. Puis là, tiens, je vais charger de l'or, je vais aller le vendre plus loin. Et dans la partie, il y a des décomptes, on regarde à quel point les entrepôts des villes sont remplis. Et là, on gagne de l'argent. Mais... il y a aussi une autre méthode pour gagner de l'argent, c'est de s'emparer des villes des autres.
Ah oui.
Donc combat. Ce qui a toujours été l'originalité pour l'époque de Serenissima, c'est que on peut faire. Il y a des parties qui peuvent être très guerrières, d'autres très marchandes, avec des gens qui se protègent beaucoup. Et donc Et donc, c'est un jeu un peu atypique de ce point de vue-là. Il est juste au milieu entre deux écoles, quoi.
Et le fait de la rencontre avec Dominique Erhard par rapport à ce jeu-là, c'est toi qui es allé le voir en disant est-ce qu'on le referait ou ça s'est fait autrement ?
Pas vraiment, parce que en fait, c'est né il y a des années et des années. J'avais une boutique à l'époque, ça s'appelait Fireball, pour ceux qui se rappellent. Et elle n'était pas à moi, mais enfin, on était plusieurs dedans, quoi. Et un jour, j'étais dans le fond en train de travailler et je vois un grand monsieur rentrer, l'air sérieux, super sérieux. Et c'était avant que je commence l'édition, vraiment. Et donc, je le vois regarder dans les jeux, tout ça. Donc, je lève un peu la tête, j'étais en train de bosser sur l'ordinateur. Je lui fais « Est-ce que je peux vous renseigner ?» Et puis, il me regarde avec son air super sérieux, il me fait « Non, merci, non. » Je rebaisse la tête. Et puis je réfléchis, je me dis, ce gars-là, je l'ai déjà vu quelque part. Et je relève la tête, je fais, excusez-moi, vous ne seriez pas Dominique Erhard par hasard? Et là, je l'ai surpris. Parce qu'à l'époque, Internet, c'était un peu moins... Et il me fait, si. Ah, je fais, oh là là, j'adore Méditerranée, je suis un grand fan et tout. Et donc, ça a bien brisé la glace entre nous, on a causé. Et après, on s'est côtoyés au fil des ans, on a fait Scylla ensemble. Et un jour, il m'a recontacté en disant « J'ai une bonne idée pour Serenissima, si ça t'intéresse. » Je lui ai dit « Comment que ça m'intéresse ?» Donc voilà.
Ouais. Ah oui, donc voilà, donc simple quoi. Donc ouais. Logique, mais basé sur la longueur, une relation basée.
On n'est pas pressé, hein. On est encore là pour quelques années.
Voilà. Et alors la troisième sortie, qui n'est pas vraiment une sortie, c'est plutôt une extension de Eclipse. Donc Eclipse, on en a parlé l'année passée, c'est ce fameux 4X qui était en fait un peu précurseur par rapport au Essen de cette année.
Oui, tout à fait, ouais, qui a été un gros succès. C'était le gros succès de l'année dernière, au moins à la boutique Asmodée, mais ce qui était une surprise d'ailleurs pour eux, parce que c'est un jeu assez cher, hein, on ne va pas se mentir. Et tellement gros succès que finalement, cette année, il a son extension, qui était déjà dans les tubes. La sortie d'une extension est toujours conditionnée au succès du jeu de base. Donc, effectivement, il y a une extension qui s'appelle L'éveil des anciens, qui amène... 4 nouvelles races, en fait, 3 nouvelles races vraiment et une race générique comme on le faisait, et pas mal de petites choses dans lesquelles on peut piocher si on veut rajouter, pas rajouter. Donc ça s'appelle l'éveil des anciens parce que les anciens reviennent et ils sont pas contents, en résumé. Après, donc, des nouvelles technologies, des nouvelles races, tout un tas de nouvelles choses, la possibilité de jouer à 9, alors... je sais que ça fait peur, mais avec une règle spéciale, cela dit, qui fait que les parties sont à peine plus longues, en fait. Ça rajoute pas une heure et demie aux parties. Simplement, quand on va faire certaines actions, tout le monde va pouvoir les faire. Donc, ça va avancer un peu à la Puerto Rico, on va dire. Et voilà, dans une petite boîte, c'est très, très, très sympa. Voilà.
Donc, avant l'extension, ça se jouait à combien de joueurs ?
Bah, ça pouvait jouer jusqu'à 6.
Donc là, on est à 9, et ça veut dire que ça dure beaucoup plus longtemps.
On n'est pas obligé de jouer.
Si, on est obligé.
Non, déjà, tu peux simplement utiliser les nouvelles races dans le contexte ancien. Mais je te dis 9, vraiment, il y a des règles spéciales pour parce que 9, ça aurait duré 4h30. Ce qui est encore acceptable pour une partie de Twilight Imperium, largement, je pense. Mais ce qui n'est pas le but des auteurs d'Eclipse. Donc, il y a des règles spéciales qui accélèrent la partie. Parce que naturellement, quand, par exemple, un joueur va faire une action et que tout le monde l'a fait, on se doute bien que ça amène le jeu beaucoup plus vite vers la fin. Donc voilà, le but, c'est que ça dure, même à 9, 3 heures maximum. Quoi. Ce qui est très raisonnable pour un jeu à 9 de cette complexité.
Ok, ça c'est les trois sorties. Comment se porte Hystari par rapport aux distributions des différents pays? C'est-à-dire qu'il y a Lookout qui est dans un coin, il y a Rio Grande qui est aussi dans un coin. On continue à avoir des interactions comme ça avec différents éditeurs?
C'est toujours le bazar, hein, on est en Europe. De toute façon, nous on fait surtout du corps, donc c'est toujours un peu mélangé. Ça va bien. Ça va bien. C'est moi, en fait, les jeux, on les prend un petit peu un par un. Donc,
est-ce qu'on vous a senti un peu plus discret cette année? C'est un peu ça l'idée.
Discret? Je sais pas.
Disons qu'il y a eu Eclipse, et puis on a vu Serenissima. On a entendu parler de Serenissima, et puis Myrmes, mais je veux dire, là, sur l'année entre les deux Essen, on va dire, pour moi, j'ai eu l'impression qu'il y a eu moins de communication.
Je vais te répondre à un truc, Sherlock Holmes.
Oui.
Sherlock Holmes, ça est quand même arrivé entre les deux. C'est beaucoup de travail, hein, Sherlock Holmes. Donc. On est très content du succès de Sherlock Holmes. Tu vois, au début, quand je l'ai fait, j'avais pensé en faire 1000 en me disant on va se faire plaisir, etc. Et puis là, en un an, on en est à 10 000 ventes, quoi, tu vois. Donc, Le problème, c'est que bah, là, on bosse sur des extensions, des trucs comme ça. Comme je suis toujours un peu tout seul, je peux pas faire à la fois communication et bosser. Donc, c'est boulot.
Ça veut dire que c'est des boîtes. Donc, Sherlock Holmes, ça va devenir quelque chose de fond. C'est-à-dire qu'il va y avoir des scénarios qui peuvent sortir régulièrement.
Tant que les gens en voudront, déjà.
Oui. Sur les 10 000, c'est sur différents pays ou c'est que en France ?
Juste France. 10 000 France, et on est bientôt épuisé là, donc il va falloir en refaire. Après, il va sortir dans d'autres pays, ce qui a fait partie du boulot à faire aussi, tu vois. Et effectivement, c'est peut-être pour ça qu'on me voit moins, mais tu vois, donc du coup, j'ai dû refaire tout Sherlock Holmes en anglais. Donc évidemment, pendant ce temps-là, j'ai l'air de rien faire en France, mais Sherlock Holmes, c'est beaucoup de travail de mise en page, de correction, refaire en anglais, c'est pas reprendre la version anglaise existante, puisque nous, on a fait des modifications. Donc ces modifications, faut les réimpacter. Donc Sherlock Holmes, c'est le boulot. Enfin, par rapport à Joystarry, c'est à peu près le triple en boulot, tu vois. Donc ça prend beaucoup de temps en fait. Et c'est vrai que du coup, j'étais un peu plus discret. Puis après, j'ai pas tout le temps.
C'est une impression.
J'ai pas tout le temps des trucs à dire. Donc.
Est-ce qu'au niveau des traductions de Sherlock Holmes, on voit des différences culturelles en fonction du pays? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne ferait pas dans certains pays?
Je ne pense pas, parce que c'est quand même un personnage universel, un monde bien connu. Nous, on s'est contenté, pour la version anglaise, je me suis vraiment contenté de réimpacter les mêmes changements, sachant que, de toute façon, le jeu était originaire des États-Unis, donc je pense qu'ils ont fait, s'il y avait un boulot de censure ou quoi que ce soit, ça aurait été possible, après tout, l'Amérique a bien changé. Mais bon, de toute façon, on est dans l'Angleterre victorienne, il se passe rien de bien choquant. Bon, des meurtres, mais enfin, aux États-Unis, ça les choque pas vraiment, même de nos jours. Il va sortir en Italie et en Espagne également. Et là, en fait, j'ai changé un petit peu parce que j'ai dit, écoutez, je peux pas faire le boulot. D'abord parce que, bon, encore l'anglais, je le parle un petit peu. Italien, j'ai des notions, mais l'espagnol, pas du tout. J'aurais dit, vous pouvez le sortir, je vous le donne. Voilà les fichiers, démerdez-vous. S'il doit faire des changements, je pense que le principal changement, c'est plutôt sur la forme. Initialement, c'était un classeur. C'était pas très pratique. Nous, on l'a sorti en forme de livret et eux, ils veulent le sortir en forme de livre, carrément. Livre, un hardbook. Donc voilà. C'est pas tellement dans le contenu, en fait.
Ok, bon, bah effectivement, donc il y avait une raison pour laquelle c'était de sortir ce genre de choses-là. On a eu l'occasion de se croiser lors du concours. On a eu l'occasion de se croiser sur le concours de Boulogne-Billancourt il y a 2 ans par rapport à un jeu qui est Bago, dont j'ai vu passer une illustration sur Facebook. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça?
On n'avance pas vite. Bago, c'est un super jeu. C'est surtout un super mécanisme. Le seul problème qu'on a, c'est de le rendre un poil plus festif. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est pas la jouabilité qui est excellente, c'est la rejouabilité. Et on se pose beaucoup de questions de ce point de vue-là. Alors après, on a avancé sur le boulot d'illustration, on a même une couverture qui est magnifique. Mais on va se poser des questions, et là, je vais me les poser après cet Essen. J'ai une petite session de travail là en novembre, où ça va être notre principal problème. Donc, enfin, problème n'est pas le mot, mais il faut qu'on trouve des solutions pour faire de cette belle mécanique un jeu avec une durée de vie conséquente.
Et on est resté sur le thème des marchés.
Oui, complètement. On a juste un peu changé le titre, ça s'appellera Shenyang. Et on fera le commerce du thé au lieu de faire le commerce de riz, etc. Mais ça change pas grand-chose. Il y aura exactement la même mécanique que tu connais, puisque je pense que tu l'as vu à Boulogne, qui est une idée formidable.
L'idée est simple, c'est qu'on choisit des actions et le nombre de fois qu'on pourra faire cette action a été déterminé par le joueur d'avant avec un dé.
Voilà, exactement. Donc tout ça c'est formidable. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de rajouter un peu plus d'interaction entre les joueurs. Naturellement, il y a une interaction du coup assez franche grâce à ça, puisque en choisissant son action, on sait déjà comment on va aider le suivant, etc. Mais plus d'interaction sur le plateau, puisque en fait, nous, ce qu'on pense, c'est qu'on devrait peut-être arrêter d'avoir chaque joueur à son plateau individuel, mais de faire un plateau commun où, du coup, il y aurait des problèmes.
Donc, blocage.
Mais tout ça, c'est du boulot. Et ça veut dire, une fois de plus, dire « bon, bah, là, on a un jeu qui marche, bon, bah, on le démonte complètement et on en fait un autre jeu ». Donc, tu vois, c'est le genre de remise en question. Les années passent, ça devient dur.
Bon, ben, bon courage et en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces nouvelles. Cyril, à très bientôt.
À très bientôt.
Vous avez aimé ce podcast? Alors appuyez sur la touche Trop Cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.